Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, petit cours de rattrapage aujourd'hui dans Accent d'Europe. Presque 300 ans après le siècle des Lumières et la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, on revient sur l'indépendance de la justice. Apparemment, une affaire qui en Europe en 2020 n'est toujours pas réglée. En Pologne, justement, les juges sont désormais sous l'œil du pouvoir. Une nouvelle loi permet désormais de les sanctionner, voire même de les suspendre s'ils critiquent le gouvernement. Une loi qualifiée de muselière et qui inquiète l'Europe. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs donné une date limite aujourd'hui pour que la Pologne donne des explications avant d'éventuelles sanctions. Reportage auprès des magistrats polonais inquiets pour leur indépendance, signé Thomas Giraudot.
C'est dans un restaurant de Łódź, la troisième ville du pays, que nous retrouvons Eva et Rafał Maciejewski. Se voir au tribunal, trop dangereux pour ce couple de juges, 49 ans tous les deux, leurs activités sont surveillées de près. Ils sont connus pour leur combat contre les réformes de la justice. Depuis l'été 2017, le ministre de la Justice a notamment remplacé au moins 80 présidents de tribunaux de droit commun, parmi lesquels celui de Łódź où travaille Rafał Maciejewski.
J'ai écrit et publié un article sur notre site internet. Dans celui-ci, j'ai expliqué que le nouveau président de notre tribunal n'a pas notre soutien, qu'il manque de compétences. Il a complètement désorganisé le travail au sein du tribunal. Il a confié beaucoup d'affaires à des juges sans expérience à ce niveau. Suite à cet article, j'ai fait l'objet d'accusations disciplinaires parce que j'avais publié ces informations sans l'accord du président du tribunal.
En vertu de la loi promulguée la semaine dernière par le président polonais, Rafał Maciejewski peut être suspendu, voire même exclu de la magistrature pour ses écrits. Sa femme Eva est poursuivie car elle a interrogé la Cour de justice européenne sur la légalité des réformes judiciaires polonaises au regard du droit communautaire.
Cette dernière loi ne change rien à mon travail. Je vais continuer à être fidèle à mon serment de juge, donc respecter la constitution polonaise et le droit européen. Si une loi n'est pas conforme à l'un des deux, alors je ne dois pas la respecter. Cette réforme de la justice polonaise ne sert pas à punir des moutons noirs, de mauvais juges qui se comportent mal, ne travaillent pas bien. Non, c'est pour dresser, domestiquer les juges qui ne sont pas encore soumis au pouvoir actuel.
La fatigue se lit sur le visage des deux époux, leur tristesse aussi. Rafał raconte que ses parents, ses cousins votent pour le parti au pouvoir et qu'il ne peut plus parler de sa situation avec eux.
On a peur pour notre avenir, c'est normal, mais on ne va pas se taire. Parce que l'on croit que ces valeurs, l'état de droit, sont plus importantes que notre bien-être personnel.
Moi aussi, je suis très fatiguée. Nos filles nous disent que depuis 2 ans et demi, on ne parle que des réformes de la justice à la maison. Justement, nous sommes fortement engagés maintenant et ce n'est pas le moment d'abandonner.
En face, le parti PiS, droit et justice au pouvoir, a créé un système aux ordres, une chambre disciplinaire au sein de la Cour suprême qui traite toutes les procédures contre les juges et où siègent des magistrats proches du pouvoir politique. L'Europe s'inquiète, des ONG parlent de la fin de la séparation des pouvoirs, des accusations balayées par Radosław Fogiel, député et porte-parole du PiS.
Si nous parlons de la séparation des pouvoirs, il doit y avoir quelques liens entre le Parlement, le gouvernement et la justice et des systèmes de contrôle entre eux. Avant, il y avait l'exécutif et le législatif d'un côté et de l'autre une justice séparée, pas surveillée, pas responsable. Nous changeons cela et bien sûr beaucoup de magistrats ne sont pas d'accord. Notre position dans cette affaire, c'est que l'état de droit n'est absolument pas menacé et que l'indépendance de la justice est aussi forte, voire même meilleure qu'avant.
La récente loi muselière, comme l'appellent ses opposants, donne à la chambre disciplinaire de la Cour suprême le pouvoir de limoger des juges qui remettraient en cause l'indépendance de leurs confrères nommés par le président polonais.
En Pologne, la loi supérieure, suprême, c'est la constitution polonaise. Celle-ci dit que le droit de nommer des juges incombe seulement au président polonais. Cela ne peut pas être questionné, cela ne peut pas lui être retiré, point final. Donc quand un juge remet en cause la légitimité d'un de ses confrères, eh bien cela enfreint la constitution et il doit faire l'objet de procédures disciplinaires.
Okay. Thank you very much once again.
Oui, la constitution polonaise est la loi suprême, mais les lois et jugements européens sont au-dessus, s'imposent à la Pologne. En novembre dernier, la Cour de justice européenne a rappelé aux juges polonais qu'ils ont le droit et même le devoir d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de leurs confrères. La loi muselière qui punit les juges pour cela et la chambre disciplinaire de la Cour suprême devrait être gelée, selon Michał Wawrykiewicz. Il est avocat et membre de l'initiative Wolne Sądy, Tribunaux Libres.
J'ai pu voir à quoi ressemblent les audiences dans cette chambre disciplinaire. C'est une vision d'horreur. Les personnes nommées à cette chambre sont très proches du ministère de la Justice. Ils ne sont pas de vrais juges. Ils se comportent comme des militants du parti au pouvoir. Donc les audiences de cette chambre disciplinaire sont en fait des farces, des parodies de procès.
Si la Cour de justice européenne condamne la Pologne, le gouvernement à Varsovie va-t-il appliquer le jugement ? À deux reprises, il a cédé ces dernières années, mais les juges et avocats rencontrés en sont sûrs. Le pouvoir trouvera le moyen de poursuivre ses pressions sur le système judiciaire.
Et en Slovaquie, c'est un procès extraordinaire qui se déroule en ce moment avec la comparution de plusieurs suspects dans l'affaire du meurtre en février 2018 du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne. Le jeune enquêteur avait dévoilé les réseaux mafieux infiltrés au plus haut sommet de l'État. Il l'a payé de sa vie. Les commanditaires présumés de ce double assassinat est un homme d'affaires à la réputation sulfureuse. Ses liens avec des juges corrompus sont également mis en lumière lors de ce procès. Écoutez les explications d'Alexis Rosenzweig.
Les Slovaques commençaient à se douter de l'étendue du scandale. Le meurtre du journaliste d'investigation et les révélations qui s'enchaînent depuis ont fini de les convaincre que la corruption et les pratiques mafieuses ont réussi à gangréner le système politique et judiciaire de leur pays. Des procureurs, magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice ont été mis en cause grâce au déchiffrage de la correspondance de Marian Kočner, commanditaire présumé du meurtre dont la messagerie, récupérée depuis son téléphone, esquisse un bilan désastreux de l'état de la justice slovaque et de son indépendance, avec entre autres une secrétaire d'État contrainte depuis à la démission en raison du millier de textos échangés avec le suspect. Piqué au vif, le Conseil de la magistrature a mis en place l'année dernière une commission spéciale pour sanctionner tous les juges qui se laisseraient corrompre. À sa tête se trouve une juge de la Cour suprême réputée incorruptible qui fut parmi les premiers à réagir quand la vice-présidente de cette même cour a été éclaboussée par le scandale Kočner. Pour la presse slovaque, il y aura un avant et un après assassinat du journaliste Jan Kuciak. Pour la justice du pays, il y aura un avant et un après procès de Marian Kočner. L'homme est sur le banc des accusés de ce procès hors norme. En face de lui, dans la grande salle de l'école de la magistrature, transformée pour l'occasion en tribunal, l'avocat des victimes symbolise à lui seul ce combat pour une justice impartiale. Ancien ministre de la Justice, Daniel Lipchitz a figuré dans le passé parmi les personnalités menacées par les réseaux mafieux slovaques dont il est justement question au cours de ce procès historique.
Et la Serbie, qui est toujours candidate pour rentrer dans l'Union européenne, devra faire beaucoup de progrès, surtout dans la réforme de son système judiciaire. C'est d'ailleurs l'un des points les plus problématiques des négociations d'adhésion que mène Belgrade. Les magistrats eux-mêmes n'ont pas confiance dans une institution encore aux ordres. Simon Rico.
L'Union européenne a déjà investi une centaine de millions d'euros pour financer les projets de réforme du système judiciaire en Serbie. Et pourtant, malgré cette manne financière conséquente, rien n'a vraiment changé dans le pays, officiellement candidat à l'intégration depuis 2012. Le népotisme et le copinage n'ont toujours pas fait place à la transparence. Au contraire, une enquête menée il y a 2 ans sur la perception des magistrats serbes révèle l'insatisfaction profonde qui règne au sein même de l'institution, censée pourtant garantir les fondements de l'état de droit. Les trois quarts des juges et procureurs de Serbie estiment que le processus de nomination des magistrats n'est pas transparent et 9 sur 10 considèrent que le montant de leur salaire n'offre pas un niveau suffisant de sécurité matérielle pour garantir leur indépendance. Pas étonnant dans ces conditions que sur une échelle de 1 à 5, les magistrats serbes donnent à peine la moyenne à leur justice, 2,67 selon les juges du siège, 2,58 selon les procureurs. Si la Serbie a déjà ouvert 18 des 35 chapitres de l'acquis communautaire, ces négociations patinent notamment à cause de son incapacité à réformer son système judiciaire. Concernant les chapitres 23 et 24, appareil judiciaire et droits fondamentaux, justice, liberté et sécurité, Belgrade fait même du surplace depuis 2015. Pas moins de 4 projets de réforme ont été proposés, tous ont été retoqués. Fin janvier, les magistrats sont de nouveau montés au créneau pour dénoncer l'idée suggérée par le secrétaire d'État à la justice de confier au chef de l'État le pouvoir de nommer les juges et procureurs. Ce serait même un recul démocratique, préviennent-ils, alors que le président Aleksandar Vučić et son parti ne cessent d'étendre leur mainmise sur l'ensemble des institutions et que la séparation des pouvoirs est de fait sérieusement remise en cause en Serbie. Dans ces conditions, les multiples appels des responsables européens à intensifier la réforme de l'état de droit ressemblent de plus en plus à des vœux pieux.
La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les mauvaises conditions de détention dans ses prisons, c'était le 30 janvier dernier. Notre confrère du site myeurope.info vient à la rescousse pour nous expliquer une telle aberration. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Frédéric.
Daniel, peut-on dire que les gouvernements successifs français se désintéressent des prisons ?
On ne peut pas dire que rien n'a été fait en France. Depuis 1990, le nombre de places de prison a augmenté de 60%. Le nombre de prisonniers sous surveillance électronique est passé en 10 ans de 1000 à 10 000 et de nombreuses peines courtes ont été aménagées. Mais depuis 20 ans, le nombre de prisonniers écroués s'est accru de 20 000. Résultat, le taux d'occupation qui était de 104% en 2000, soit 4% de population carcérale en excès des places disponibles, eh bien ce taux a atteint 108 en 2010 et près de 116 début 2020.
Alors je suppose que cette surpopulation carcérale ne concerne pas que la France en Europe.
Non, mais selon les chiffres du Conseil de l'Europe pour 2018, seuls 5 pays sont en surpopulation et la France n'est dépassée à cet égard que par la Roumanie, tandis que l'Italie, le Portugal et la République tchèque sont derrière la France. Signalons que le Portugal a fait un gros effort depuis 2 ans, passant d'un taux de surpopulation de 137 à 106. Quant à l'Espagne, avec un taux seulement de 72, elle fait désormais partie des pays qui, de l'Allemagne à la Scandinavie, ont des prisons sous-occupées.
L'Espagne qui a complètement changé sa politique carcérale.
C'est le résultat de la réforme du code pénal qui, en multipliant les peines de substitution, a diminué le nombre des incarcérés espagnols. Et le gouvernement de Pedro Sanchez entend aller beaucoup plus loin.
Et donc, tout comme l'Espagne, d'autres pays essaient de limiter le nombre de prisonniers.
Oui, cela se mesure en termes de taux d'incarcération, c'est-à-dire le nombre de prisonniers pour 100 000 habitants. En 3 ans, ce taux est revenu en Espagne de 138 à 127. C'est nettement moins qu'en Angleterre, mais encore beaucoup plus qu'en Allemagne et surtout qu'en Suède, qui ne compte que 56 prisonniers pour 100 000 habitants. Quant à la France, son taux diminue, mais il reste encore supérieur à 103. Cette baisse assez générale du taux d'incarcération reflète la multiplication des peines alternatives. Et en Scandinavie, de ce qu'on appelle la détention ouverte, les peines s'effectuant sur les lieux de travail non gardés. Ce système a été particulièrement développé au Danemark.
Et peut-on dire que les résultats sont bons ?
Oui et non. La détention ouverte favorise évidemment la réinsertion, mais elle facilite aussi les évasions. Ainsi, le taux d'évasion pour 10 000 prisonniers est-il très élevé en Scandinavie, où il approche ou dépasse les 200 contre 88 en France, 61 en Allemagne et encore beaucoup moins en Italie ou en Espagne. De plus, l'évasion est un facteur de récidive. Le taux de récidive, c'est-à-dire de nouvelles condamnations 3 ans après être sorti de prison, ce taux dépasse les 60% en Suède et au Danemark contre 46-48% en France, en Allemagne et en Angleterre et seulement 30% en Italie ou en Espagne.
Et qu'en est-il des conditions de vie en prison ?
Le taux de suicide pour 10 000 détenus fourni par le Conseil de l'Europe peut constituer une mesure de l'état moral et psychologique des prisonniers. Dans ce domaine, la France est le pire pays d'Europe avec un taux proche de 13 pour 10 000 contre moins de 12 en Allemagne et au Portugal et environ 8 en Angleterre et en Italie. Paradoxalement, l'Espagne est le pays où les prisonniers se suicident le moins, alors que la durée moyenne d'emprisonnement y est élevée, 22 mois. Bien plus que les 8 mois observés en France.
Au final, Daniel, comment expliquer les piètres résultats de la politique pénitentiaire française ?
Les nombreux plans qui se sont succédés depuis 20 ans n'ont pas été exempts de contradictions, voire de revirements. Un seul exemple. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, veut multiplier les peines de substitution, mais dans le même temps, la pénalisation de nombreux délits, le développement des comparitions immédiates, la hausse du nombre de détentions provisoires remplissent les prisons que l'on souhaite décongestionner. Reste enfin le nerf de la guerre, l'argent. Avec 108 euros par jour et par détenu, les dépenses carcérales françaises restent inférieures aux dépenses engagées en Allemagne et en Italie, 132 euros, au Danemark et aux Pays-Bas, plus de 200 euros, et par-dessus tout en Suède, où ces dépenses atteignent 380 euros, près de 4 fois plus qu'en France.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Et on terminera cette émission sur un drôle de portrait, celui d'un charbonnier à Berlin. Après être sorti du nucléaire, l'Allemagne s'est récemment fixée pour objectif de débrancher de manière définitive ses quelque 148 centrales à charbon d'ici 2038. Un délai qui peut paraître bien trop long à l'aune du changement climatique, mais qui s'explique par un chiffre. Près de 40% de l'électricité est produite grâce au charbon, si bien qu'à Berlin, on compte encore une petite dizaine d'entreprises qui livrent du charbon aux particuliers qui vivent dans de vieux appartements. Depuis Berlin, Julien Méchaussy.
Guten Morgen, Firma Köckler. 8h du matin dans le quartier de Kreuzberg. Yes. C'est la première livraison du jour pour Detlef Pleschke, 61 ans, dont 40 comme charbonnier. Accompagné de son collègue Uwe, Detlef porte à bout de bras les briquettes de charbon au quatrième étage de cet ancien immeuble berlinois sans ascenseur.
En tout, ça fait 20 briquettes à monter. On porte à chaque fois 2 briquettes. Une briquette pèse 25 kilos. Faites vous-même le calcul.
Soit une demi-tonne de charbon à livrer sur les 10 au programme aujourd'hui. Avant la chute du mur, Berlin comptait près d'un millier de charbonniers. Ils ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui à fournir les 12 000 foyers qui se chauffent encore au charbon. À l'image de Christine qui réceptionne les 500 kilos de charbon. Pour tenir tout l'hiver, elle a besoin en tout d'une tonne et demie.
L'avantage du charbon est avant tout financier. Le loyer d'un appartement avec un chauffage au charbon est 2 fois moins élevé qu'un logement avec un chauffage central. C'est une chaleur très agréable aussi. L'air ambiant est beaucoup moins sec. On tombe moins souvent malade. Mais on ne va pas se mentir, c'est surtout une question de coût.
À environ 200 euros la livraison, Christina dépense seulement 600 euros pour passer l'hiver. Avec l'explosion des prix de l'immobilier dans la capitale allemande et les nombreuses rénovations énergétiques, les logements dotés encore d'un poêle à charbon sont devenus rares. Et avec eux, les charbonniers. Detlef Pleschke est déjà en route vers sa prochaine livraison, malgré la pénibilité de son travail.
C'est l'un des pires métiers qu'on puisse imaginer, c'est tellement dur. Un charbonnier ne peut pas vivre très vieux. J'ai des problèmes de dos, une hernie discale, des douleurs aux genoux, aux bras, j'ai des difficultés à bouger mes doigts. Mais je dois encore tenir jusqu'en 2024, jusqu'à ma retraite. Je pourrai alors me reposer.
Dans les mains de la même famille, depuis plus d'un siècle et 4 générations, la petite entreprise pour laquelle travaille Detlef Pleschke essaye elle aussi d'anticiper la sortie annoncée du charbon. Elle livre désormais également des briquettes de copeaux de bois.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.